Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Theresa May inflexible, la première ministre britannique maintient son projet d'accord sur le Brexit malgré la démission de plusieurs membres de son gouvernement. Reste à savoir combien de temps elle pourra résister à la pression de ceux de plus en plus nombreux qui réclament son départ. Dans ce journal, les explications d'Isabelle Labéry et le commentaire de notre invité, l'universitaire Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Une victoire pour Alexei Navalny, un revers pour Vladimir Poutine. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie pour avoir arrêté arbitrairement le principal opposant au président russe. Le reportage à Strasbourg d'Ania Vogel. En France, la cour d'assises de Bobigny acquitte Georges Tron et Brigitte Gruel. Le maire de Draveil et son ex-adjointe étaient jugés pour viol. Le parquet peut encore faire appel de ce double acquittement. Nous verrons cela avec Florence Thiom. Theresa May ne lâche rien. La première ministre britannique est bien décidée à défendre jusqu'au bout son projet d'accord sur le Brexit. Et cela, malgré la démission de 4 membres de son gouvernement. Des défections qui se sont succédées ce matin. Alors qu'hier, le gouvernement britannique avait officiellement validé le texte négocié avec Bruxelles. Ce soir, Theresa May a réaffirmé sa volonté d'imposer sa vision du Brexit. Isabelle Labéry.
Ébranlée, bousculée, mise en minorité, Theresa May plie, mais ne rompt pas. Est-ce que j'irai jusqu'au bout, dit-elle devant la presse? La réponse est oui, car le leadership, c'est prendre les bonnes décisions, pas forcément les plus faciles. La voie que j'ai choisie est la bonne, martèle le Premier ministre britannique. Ce projet d'accord est le meilleur possible. Et pourtant, ce matin, ce sont plusieurs poids lourds de son gouvernement qui ont jeté l'éponge avec fracas, notamment le ministre du Brexit, Dominic Raab, qui aura tenu 4 mois seulement. Ce texte, dit-il, trahit les promesses faites au peuple britannique. Dans la foulée, l'intervention de Theresa May devant le Parlement est extrêmement houleuse. Et pendant qu'elle s'accroche à son micro, plusieurs élus eurosceptiques de son propre camp prépare leur lettre appelant au vote d'une motion de défiance. Theresa May est plus affaiblie que jamais et plus que jamais elle garde le cap. Le choix est clair, dit-elle encore, nous pouvons aussi choisir de partir sans accord ou prendre le risque de ne pas avoir de Brexit du tout. Un épouvantail brandi devant les frondeurs pour les convaincre de la suivre malgré tout.
Isabelle Labéry, merci. Invité de ce journal, Patrick Martin-Jeunier, maître de conférence à Sciences Po Paris et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Martin-Jeunier, Theresa May, on l'a entendu, est déterminée, mais elle apparaît tout de même très affaiblie après cette série de démissions. Alors, est-ce qu'elle a encore les moyens politiques de rester en poste?
Alors Theresa May, vous savez, est considérablement affaiblie depuis les dernières élections législatives. Elle a toujours essayé de trouver un équilibre entre les partisans du Brexit et ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne. Plusieurs ministres ont démissionné et évidemment, sur ce point, elle a réussi à retarder les échéances politiques. Mais aujourd'hui, elle est au pied du mur. Elle a essayé de négocier un accord avec l'Union européenne, mais manifestement, elle n'a pas eu la confiance d'une partie des membres du gouvernement. Ces gens la démissionnent aujourd'hui. Alors qu'elle risque d'être mise en minorité au Parlement. Donc effectivement, elle a de grosses difficultés aujourd'hui et elle joue son poste manifestement dans les jours qui viennent.
Qu'est-ce qui coince finalement dans ce projet d'accord qui a provoqué cette rébellion ?
Ça coince dans tous les sens, et à la fois pour les partisans d'un Brexit dur, qui s'aperçoivent en réalité qu'il n'y aura pas de sortie sèche de l'Union européenne, parce qu'il s'agit de préserver les intérêts économiques, de préserver les intérêts stratégiques des entreprises, mais également de préserver le droit des citoyens du Royaume-Uni dans l'Union européenne et le droit des citoyens de l'Union européenne au Royaume-Uni. Donc par conséquent, ceux qui étaient partisans d'un Brexit dur, d'une véritable sortie de ce pays de l'Union européenne, qui leur aurait permis de passer des accords commerciaux avec d'autres pays, notamment l'Asie du Sud-Est, la Chine et également les États-Unis, eh bien s'aperçoivent que cela sera impossible car cet accord entérine en quelque sorte une situation provisoire qui est de rester dans l'union douanière sans en sortir définitivement et donc il ne veut pas en entendre parler. Par ailleurs, il y a également les Irlandais du Nord qui pensent que eh bien ils risquent d'être dissociés dans un régime juridique et politique vis-à-vis du Royaume-Uni. Ils ne veulent pas avoir un régime qui serait différent de celui celui du Royaume-Uni. Donc ça coince au niveau des unionistes, ça coince au niveau des Brexiteurs durs qui auraient souhaité une sortie sèche de l'Union européenne. Et bien évidemment, les partisans d'un maintien dans l'Union européenne ne sont pas satisfaits non plus parce qu'ils considèrent que sont en cause les intérêts des entreprises, comme par exemple Tony Blair ou d'autres personnes qui pensent qu'en réalité, il faudrait faire un second référendum pour rester dans l'Union européenne. Donc au final, personne n'est satisfait et c'est une convergence des oppositions qui risque d'emporter Theresa May.
Justement, l'hypothèse d'un deuxième référendum vous semble-t-elle crédible ?
Elle devient envisageable, à défaut d'être crédible, parce que depuis le début, vous savez que Theresa May avait dit « le Brexit, c'est le Brexit, on va sortir de l'Union européenne ». Mais à mesure qu'elle essayait de concocter un plan de sortie, ses négociations avec l'Union européenne qui ont été de plus en plus difficiles et conflictuelles, eh bien il y a de plus en plus de personnalités, de responsables politiques qui aujourd'hui appellent à un second référendum. Et finalement, plus on se rapproche de l'échéance, plus on peut envisager, sous une forme ou sous une autre, un second référendum qui passerait soit directement par une nouvelle question au peuple britannique, soit par de nouvelles élections législatives qui seraient censées être un quasi-référendum pour avaliser ou rejeter le plan de sortie de l'Union européenne.
Patrick et Martin Jeunier, est-ce que le rêve secret de l'Union européenne, ce n'est pas justement l'organisation de ce deuxième référendum ?
C'est vrai que l'Union européenne a toujours dit on espère que le Royaume-Uni va rester dans l'Union européenne, mais face à l'obstination de Theresa May, qui a toujours tenté de protéger les Brexiteurs, de se concilier leur appui politique, parce qu'ils sont quand même majoritaires au sein de la Chambre des communes, c'est vrai que l'Union européenne avait en quelque sorte tempéré sa position, mais il est vrai que son secret espoir, ce serait qu'en effet le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne et que un nouveau référendum puisse, le cas échéant, être organisé.
Alors, Bruxelles s'est félicité de ce projet d'accord sur le Brexit. La tonalité est à peu près la même à Paris comme à Berlin. Ça veut dire que les obstacles sont uniquement à Londres aujourd'hui ?
Ah oui, je crois que du côté de l'Union européenne, il n'y a aucun souci. On est même très soulagé. Donc, Michel Barnier, le négociateur en chef, a fait un gros travail. Il a été avalisé par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Il y a toujours eu une solidarité face au Royaume-Uni. Et on peut dire que normalement, effectivement, lors du Conseil européen qui doit avoir lieu le 25 novembre, il n'y aura aucune difficulté du côté des pays de l'Union européenne qui seront plutôt soulagés que l'on trouve un accord qui sera peut-être pas parfait, il sera perfectible, mais enfin, et on a le mérite d'avoir un accord qui évitera le chaos économique, politique et social. Donc, en effet, la principale difficulté aujourd'hui est de savoir si Theresa May a la possibilité de faire passer en force ce projet d'accord au Parlement. Malheureusement, on peut être relativement pessimiste dans la mesure où on voit bien qu'il y a une conjonction des oppositions. Le parti unioniste n'en rien ne veut pas en entendre parler. Jacob Rees-Mogg, qui dirige entre 60 et 80 députés, a envoyé une motion de défiance à l'égard du Premier ministre. Et puis d'autres, les travaillistes, en réalité, ont eux un secret espoir, c'est de provoquer de nouvelles élections. Jeremy Corbyn souhaitant, le cas échéant, prendre le pouvoir et devenir Premier ministre.
Patrick Martin Jeunier, enseignant à Sciences Po Paris, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier ouvrage, « L'Europe a-t-elle un avenir ?», ouvrage publié l'an dernier aux éditions Studirama. C'est une victoire judiciaire éclatante pour Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. La Cour européenne des droits de l'homme condamne sans appel la Russie pour avoir arrêté Navalny à de multiples reprises et cela pour des raisons politiques. En clair, la CEDH dénonce le caractère arbitraire de ces arrestations. Alexei Navalny avait finalement obtenu l'autorisation de se rendre aujourd'hui à Strasbourg où siège la Cour, moyennant le paiement d'une amende. Il a donc assisté en direct à la lecture de la décision qui condamne Moscou. Le reportage d'Anya Vogel.
Il avait déjà obtenu la condamnation de la Russie pour violation de ses droits à la liberté, notamment liberté de réunion, détention arbitraire et procès inéquitable. Mais en première instance, en février 2017, la Cour n'avait pas retenu les motivations politiques dénoncées par Alexei Navalny, le véritable harcèlement des autorités russes à son égard. Le militant anticorruption est donc revenu devant la Grande Chambre en janvier pour raconter les arrestations et incarcérations systématiques en marge de rassemblements rassemblement contre le gouvernement. Ces restrictions poursuivaient un but inavoué, celui d'étouffer le pluralisme politique, estime cette fois la Cour. Une victoire pour l'avocat de 42 ans.
C'est un vrai jugement, une décision très équitable et je suis extrêmement satisfait que pour finir, la Cour reconnaisse la violation de l'article 18 dans mon cas, ce qui signifie que mes arrestations et persécutions étaient bien motivées politiquement. C'est très important, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes à travers toute la Russie qui se font arrêter chaque jour.
La Cour estime également que l'interdiction des rassemblements pacifiques et leur dispersion avec arrestation n'est pas légitime lorsqu'ils ne causent aucun trouble. Elle condamne la Russie à verser à Alexei Navalny 50 000 euros au titre du dommage moral et plus de 1 000 euros pour dommages matériels. L'arrêt est définitif.
Anya Vogel, correspondante auprès des institutions européennes à Strasbourg. Acquitté, le maire de Draveil, Georges Tron, et son ex-adjointe Brigitte Gruel ont été acquittés aujourd'hui par la cour d'assises de Bobigny. Le jury a estimé qu'ils n'étaient pas coupables de viol et d'agression sexuelle, des accusations portées par deux anciennes employées de la mairie de Draveil. Hier, l'avocat général avait pourtant requis 6 et 4 ans de prison contre Georges Tron et Brigitte Gruel. La cour en a décidé autrement. Reste à savoir s'il y aura un autre procès, Florence Turme.
Georges Tron et Brigitte Gruel, acquittés alors que l'avocat général avait requis des peines de prison ferme, se pose désormais la question d'un appel du parquet. Ce ne serait qu'orgueil et vanité, estime Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Georges Tron.
Parce que tous ceux qui ont assisté au réquisitoire savent comment il est articulé. C'est parce que le ministère public a déserté le terrain du dossier que la défense y est allée. Longuement, scrupuleusement, minutieusement.
La Cour a estimé que malgré un climat hyper-sexualisé et des scènes avérées, la preuve d'une situation de contrainte n'avait jamais été apportée. Mais comment doit s'apprécier la contrainte? C'est toute la question posée à travers ce dossier, insiste Vincent Olivier, l'avocat de Virginie Etel.
C'est le signe en réalité de ce que la justice doit évoluer et de ce que la justice doit cesser d'apprécier abstraitement les situations. Qui peut dire qu'un député, maire, secrétaire d'État, employeur d'une femme de 28 ans et qui est sous sa domination quotidienne, qui peut dire que ce député n'exerce pas une contrainte sur cette femme? Et qui peut dire qu'on a le droit de considérer que le pot de terre Virginie Etel était placé sur un pied d'égalité avec le pot de fer Georges Tron? Un jour, il va falloir comprendre que des femmes, des milliers de femmes, des millions de femmes sont placées dans des situations de faiblesse, au travail notamment, et que ces situations de faiblesse, il va falloir un jour se préoccuper de les envisager concrètement, parce que sinon, ça continuera encore, ça continuera toujours.
Les parties civiles n'ont pas la possibilité de faire appel de cet acquittement. Seul le parquet général le peut, ce qui conduirait à un nouveau procès.
Florence Thur, merci. Tariq Ramadan va sortir de prison. L'islamologue suisse a obtenu aujourd'hui de la Cour de Paris sa remise en liberté, moyennant le versement préalable d'une caution de 300 000 euros. Mais Tariq Ramadan reste mis en examen pour des viols qu'il conteste de nationalité suisse. Il devra remettre son passeport avec interdiction de quitter le territoire français. Emmanuel Macron est-il en train d'évoluer sur la question de la PMA? En tout cas, l'examen à l'Assemblée du projet de loi de bioéthique est reporté à l'été prochain, alors que la discussion devait débuter en janvier. Le texte, conformément à un engagement de campagne du candidat Macron, doit ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Karine Bécard, comment le gouvernement justifie-t-il ce report?
Officiellement parce que les députés sont débordés. Ils ont trop de textes dans les mois qui viennent à examiner. Lesquels? Eh bien, par exemple, la réforme constitutionnelle, une loi sur la santé, notamment pour supprimer le numerus clausus, un texte sur l'école, une loi de finances rectificative sur les collectivités locales. L'agenda parlementaire est donc surchargé. Le gouvernement serait obligé de repousser l'examen de son projet de loi sur la bioéthique. Voilà pour la version officielle. Maintenant, en coulisses, il faut savoir que l'exécutif espérait un débat bicaméral sur le sujet, c'est-à-dire qu'il souhaitait que les députés et les sénateurs avancent ensemble sur le projet de loi, quelle que soit leur appartenance politique. L'objectif, c'était de calmer, d'apaiser des discussions qui pourraient très vite s'enflammer. Le problème, c'est que le Sénat, majoritairement de droite, vient de rejeter cette proposition. Résultat, le gouvernement doit imaginer une toute autre organisation. À quoi devra ressembler le débat à l'Assemblée? Faut-il envisager une commission spéciale? Pour l'instant, l'exécutif, confronté à l'exaspération d'une partie des Français, globalement empêtré dans un contexte politique un peu compliqué, n'a absolument rien tranché.
Karine Nabécard, merci. Quelle ampleur prendra le mouvement des Gilets jaunes samedi? Pour l'instant, environ 1500 actions sont prévues dans tout le pays, mais seuls un peu plus d'une centaine de rassemblements auraient été déclarés en préfecture, selon une source policière. Les Gilets jaunes entendent organiser des opérations escargots, voire des blocages, pour dénoncer la hausse des taxes sur les carburants. La météo demain, la grisaille qui se maintient sur la moitié nord et sur le sud-ouest. L'après-midi, quelques éclaircies se développeront, sauf sur le nord-ouest. En soirée, il pleuvra faiblement de la Provence au Languedoc. Température minimale de 0 à 15 degrés du nord-est aux régions méditerranéennes. Les maximales s'échelonneront de 8 à 19 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.